explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
Il y a un peu plus de 3 ans, quand la Maison des Écrivains à Beyrouth a invité Ryuko Sekiguchi à venir pour écrire un livre sur la ville, l'écrivaine et critique gastronomique a immédiatement accepté et proposé de faire le portrait de la capitale libanaise à travers la cuisine. C'est ainsi qu'au printemps 2018, notre gastronome japonaise a séjourné près d'un mois et demi à Beyrouth, au détour des ruelles, au gré des dégustations et des discussions avec les Beyrouthins. Elle a tenté de saisir un peu de l'âme de la ville, de sa culture culinaire et de son histoire, parfois douloureuse. Mais ce que Ryuko Sekiguchi ignorait en 2018, c'est que Beyrouth s'apprêtait à traverser de nouvelles épreuves. La révolution libanaise en 2019 et puis les 2 violentes explosions sur le port en 2020. C'est donc le portrait de la capitale libanaise à la veille de la catastrophe qu'elle dresse dans son ouvrage intitulé 961 heures à Beyrouth et 321 plats qui les accompagnent, récemment paru chez POL. Un portrait original et personnel, plein de saveurs, de poésie et de nostalgie, parce que Beyrouth ne se résume pas aux guerres et aux catastrophes qui l'ont meurtri. Cet après-midi, Ryuko Sekiguchi nous invite à découvrir cette ville en passant par la cuisine. Et en fin d'émission, des gorges du Sian à la dune du Pila, le passionné de géologie Georges Vetterman nous emmènera admirer quelques paysages grandioses de nos régions. Voilà pour le menu du jour. Cette émission est réalisée par Hélène Kouyoumjan et préparée par Claire Tesser, avec à la technique Florent Bujon. Soyez les bienvenus dans notre bivouac.
France Inter. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Le midi, c'est un repas de fête, c'est un repas de dimanche. Donc évidemment, c'est un repas qui doit nourrir tous les sens. C'est un repas où l'ingrédient le plus important est le temps et le partage, et les gens, la famille ou les amis qui sont autour de la table, avant la nourriture, avant n'importe quoi d'autre. C'est une procession qui commence toujours avec un taboulé et ou un fatouche. Donc c'est la salade paysanne avec du pain pita qui est grillé. Et donc après cela, il y a tous les plats froids, donc le hummus, le moutabba, le caviar d'aubergine, donc les différentes salades. Et après cela arrivent donc les plats chauds, du fromage grillé, les kebabs frits, pour qu'après arrive la fin du mezé, donc au bout de 2 ou 3 heures, de 4 heures de temps, donc un barbecue, soit de poulet et de viande. Donc c'est ça la différence entre un mezé de terre et un mezé de mer.
Bonjour Ryuko Sekiguchi.
Bonjour.
Nous venons d'entendre Kamel Mozawa, restaurateur libanais que vous avez rencontré lors de votre exploration culinaire de Beyrouth. Il décrivait ce repas de fête de la cuisine levantine, la cuisine du Proche-Orient, le mezé. C'est toujours aussi pantagruélique que ce qu'il vient de décrire, un mezé?
Alors, à la fois pantagruélique, pas toujours. C'est-à-dire que, bon, bien sûr, il faut remplir la table des petits mets gourmets, froids et choux, mais en même temps, chacun est libre de prendre ce qu'on veut à son rythme. Donc, quand vous avez grand appétit, bien sûr, et quand vous avez petit appétit, vous pouvez créer une sorte de tableau sur votre assiette en guise de comme ça de palette et créer votre goût à vous-même. Donc, c'est à la fois c'est vrai, c'est une profusion, mais en même temps. C'est le plat de liberté, en fait.
Ouais. Le mezé, qui multiplie donc ses plats partagés sur la table, ça vous rappelle, à vous, la culture culinaire japonaise?
Ah oui, parce que je ne sais pas si vous avez connu un peu les izakaya, par exemple, le bistrot japonais, où on commande 8 plats, 7 plats, enfin une dizaine de plats parfois, et que qu'on grignote. En fait, c'est le grignoter et le mot, par exemple, en japonais. Donc c'est vrai qu'il y a une sorte de familiarité.
Ouais. Alors en 2018, quand vous avez été invité par la Maison des Écrivains de Beyrouth à venir séjourner dans la ville pour en faire le portrait, vous ne connaissiez pas Beyrouth, hein, Ryuko Sekiguchi, vous y étiez passé, je crois,
oui.
Juste en coup de vent, voilà. Lors d'une escale, et vous avez tout de suite accepté.
Oui, parce que je savais que qu'on mange bien. Et puis aussi, il faut avouer que j'avais en fait je gardais un projet de d'écriture en lien entre la guerre et la cuisine, comme par exemple Phnom Penh, la cuisine qui a été il y a une sorte de, enfin, pendant une époque, il y avait un moment de vide après l'époque de Pol Pot, par exemple. Et je voulais aller faire un séjour. Et j'ai un peu calqué cette histoire de la guerre et de la cuisine lorsque quand même demandé de décrire ce livre qui a été tout de suite démenti par les Libanais qui disaient non, mais en fait, pendant nos guerres, enfin, on mangeait toujours bien. Donc, c'est pas sur ça que tu vas travailler.
Oui.
Et donc, voilà.
Mais d'ailleurs, les Libanais, les Béroutins, quand vous arrivez à Beyrouth et que vous leur dites votre projet de faire ce portrait de leur ville à travers la cuisine, ils sont plutôt réjouis et presque soulagés qu'une écrivaine s'intéresse à leur ville autrement, pour autre chose que pour parler de la guerre.
Oui, je pense qu'il y a des villes qui sont mais vraiment, qui gardent ce trauma de regard de l'extérieur et que, par exemple, bon, bien sûr, Beyrouth est malheureusement toujours lié à cette image des guerres.
Quand vous arrivez, vous, à Beyrouth, donc c'est pas la toute première fois puisque vous y étiez passé rapidement, mais quelle image vous gardez, quelle sensation tout de suite vous percevez de cette ville?
Ah, je raconte aussi, mais c'est la lumière.
Ouais.
La lumière, parce que, bon, bien sûr, il fait plus chaud qu'à Paris, il fait plus doux. Et cette lumière presque de début d'été, parce que c'est comme si on a passé, on a sauté une saison. Mmh. Et aussi, tout de suite, les odeurs de fleurs, parce que c'était vraiment la saison des floraisons. C'est ça qui m'a... tous les sens étaient déjà, dès le début, ouverts.
C'était du 7 avril au 15 mai 2018, oui. pour la saison, lorsque vous avez séjourné. Et vous racontez cette rencontre avec la ville, un peu comme un rendez-vous amoureux.
Ah, je suis tombée tout de suite. C'était un coup de foudre. C'est incroyable parce que d'ailleurs, en fait, quand j'ai accepté de faire cette résidence... Je ne savais pas trop si je pouvais écrire un livre, mais dès le premier jour, je me disais, ça y est,
ah oui.
Là, je peux écrire. Je ne sais pas sur quoi, mais je peux écrire.
Ouais, vous étiez sûr de pouvoir faire le portrait de cette ville. Elle vous a conquise très rapidement. Alors, vous avez effectué cette exploration culinaire donc du 7 avril au 15 mai 2018. Et ce que vous ne saviez pas à ce moment-là, c'est que vous étiez en train de faire le portrait d'une ville à l'aube de deux grands bouleversements. La révolution qui a éclaté au Liban en octobre 2019 et puis le 4 août 2020, les deux violentes explosions sur le port qui ont ravagé la ville. Or, Ryoko Sekiguchi, vous aviez écrit un livre intitulé « Ce n'est pas un hasard », un ouvrage en forme de chronique que vous aviez écrit juste après la triple catastrophe de 2011 au Japon. Le séisme, le tsunami qui s'était fini par cet accident nucléaire de Fukushima. Et dans ce livre, il était souvent question de la veille de la catastrophe. Donc là, sans le savoir, en décidant de faire le portrait de Beyrouth en 2018, vous étiez à nouveau en train de faire le portrait d'une ville à la veille de la catastrophe. Mmh. Ça vous a perturbé après coup, ce télescopage ?
Ah oui, bien sûr, parce que pour ne rien vous cacher, maman, j'ai beaucoup hésité à le publier après l'explosion de 4 août. Je me disais, est-ce que je dois publier ou non? Est-ce que cette image comme ça un peu réjouissante de Beyrouth qui ne parle que de, enfin finalement, enfin beaucoup de cuisine, est-ce que les Libanais vont accepter? Est-ce que je me suis beaucoup posé la question, enfin, qui a le droit de décrire et publier quoi?
Alors, le mot de nostalgie est déjà très présent dans cet ouvrage qui a été écrit avant la catastrophe. Mais effectivement, pour les Beyrouthins, votre livre est empreint de nostalgie parce qu'il décrit cette ville d'avant, quand finalement, même s'il y avait déjà des problèmes, de la douleur, les souvenirs de la guerre, mais qui était quand même dans une situation plus réjouissante qu'aujourd'hui.
Oui, parce que finalement, non seulement moi, mais personne ne savait qu'on était la veille de drame. Et ça fait un mois que ce livre est paru, donc j'ai heureusement en fait reçu beaucoup de retours des lecteurs libanais qui disaient Bah, heureusement que ce livre existe et, ne rappelle les jours heureux. Et ça m'a vraiment, vraiment très plaisir.
Les jours heureux. C'est une bonne porte d'entrée, la culture culinaire, pour découvrir une ville, pour aller à la rencontre de ses habitants. Tout de suite, ça crée du lien, ça donne envie de se raconter.
De toute façon, je pense que pour écrire sur une ville, bien sur quelque chose, sur un terrain, il faut avoir un outil de plus que celui de l'écriture, c'est-à-dire soit la connaissance architecturale, ou bien sur la connaissance sur les botaniques, ou bien sur les modes vestimentaires. Et pour moi, c'était la cuisine.
Et les Béroutins étaient même un peu surpris d'apprendre que la culture et leur cuisine, finalement, étaient à ce point appréciées en France, et puis dans tous les pays d'Europe, d'ailleurs. Et parmi les plats de la cuisine levantine qui connaissent un grand succès chez nous, il y a le houmous. Il y a différentes recettes du houmous. Voici celle du chef étoilé Alan Gheam, originaire du Liban. Attention, c'est plusieurs jours de préparation.
Le houmous, il ne faut pas le basculer, il faut laisser le temps. Tremper le pois chiche à la veille avec une cuillère de bicarbonate. Il faut ensuite le lendemain le laver. Recommencer aussi des cuissons qui est très lent, très douce. Il faut jamais mettre le feu à fond. Vraiment, il faut laisser mijoter sur un feu doux. Voir le pois chiche, il est un peu crispé. On le détend avec le bicarbonate. On le fait un bain chaud pendant 3 heures. Là, il dégonfle. Et ensuite, le mixer directement à chaud. Ensuite, je le débarrasse, je laisse tranquille jusqu'à le lendemain. Et le lendemain, je commence à travailler avec la crème des sésames, avec le citron. Aujourd'hui, la grosse débat, c'est l'ail. Est-ce qu'au Liban, on met de l'ail? On a l'habitude. On a grandi avec de l'ail. L'ail, je ne mets pas dans mon houmous. Je laisse vraiment le star de cette houmous, c'est le pois chiche. Et comme on a dit, le pois chiche, il aime bien le gras. À la fin, un petit filet d'huile d'arachide pour donner cette texture qui est crémeuse. Et ça, c'est l'astuce de chef.
Le chef étoilé Alan Gheam au micro de l'ami François-Régis Gaudry en septembre 2020. Ryoko Sekiguchi, vous le connaissez, hein, ce chef étoilé.
Oui,
à l'entendre, c'est tout un art de préparer un bon houmous. Qu'est-ce que vous pensez de la recette qu'il vient de donner? Est-ce qu'elle est représentative du houmous libanais?
Ah, mais je pense que, la richesse d'un houmous, c'est que chacun sa recette, bien sûr. Non, mais je pense que bon, bien sûr, je ne doute pas la recette de Alan James, qui est déjà, d'ailleurs, que je l'ai goûté, très très bon.
Ouais. Il s'interroge sur l'ail. Hein. Il a l'air de faire une entorse en disant je ne mets pas d'ail, alors que normalement, le houmous libanais, il y a de l'ail.
Oui, et aussi, on aurait dit maintenant, les gens, par exemple, qui ont les jeunes générations, des chefs, qui essayent de mettre de betteraves ou bien d'autres choses. Donc, je pense qu'il y a plusieurs écoles, et c'est ça qui est bien, parce que c'est une sorte de vase tellement simple, mais que tellement, difficile à bien faire.
Quels sont les ingrédients, les saveurs typiques de la cuisine libanaise?
Pour moi, c'est pour tout le monde, mais moi, je dirais beaucoup d'herbes aromatiques, parce que finalement, c'est la cuisine des montagnes, de la richesse de montagnes, et c'est pour ça qu'à chaque saison, je pense qu'il y a des œuvres qui sont annonciatrices, et bien sûr Zaatal, qui signifie à la fois l'herbe, qui est un peu comme origan, mais en même temps qui est une sorte de mélange d'épices et de cette herbe séchée, et qu'on peut mettre sur beaucoup de plats.
Ouais. C'est intéressant, cette idée que la saison s'invite dans l'assiette grâce à ces herbes qui changent en fonction des saisons.
Je pense c'est la célébration de saison. Donc, c'est beaucoup de plats, qui chacun raconte une histoire de la saison qui vous dit, voilà, je suis là, voilà, c'est le début de saison, et goûtez-moi, vous serez avec moi, vous sentirez le monde.
Vous employez un mot pour décrire, après quelques jours passés au Liban, à Beyrouth, vous essayez de cerner cette culture culinaire, et vous dites, il me semble qu'ici, on peut qualifier la cuisine de clarification. Qu'est-ce que vous entendez par là?
Oui, parce qu'en fait, c'est chaque goût est clair. Je dis ça comme ça, comme une sorte de encore une fois, de palette de couleurs. Tout le monde sait que plus on mélange les couleurs, plus ça s'approche au noir, vous voyez. Et dans la cuisine libanaise, chaque couleur est présente sans être mélangée d'une et l'autre. Et donc, ça reste très coloré, ça reste très riche, mais claire.
Petit à petit, vous allez apprendre à tester, expérimenter les goûts et les saveurs de la cuisine de Beyrouth. Au fil des rencontres, certains habitants vont aussi vous confier leur histoire et celle de la ville. Vous avez partagé avec eux bien plus que des repas. L'écrivaine et critique gastronomique Ryoko Sekiguchi nous emmène par les papilles à la découverte de la capitale libanaise et de son histoire. Cet après-midi, le temps d'un bivouac sur France Inter. Remember what might have been. Had I walked you home, I said I'll see you later. You were living the dream, but when the morning comes, you're gonna meet your maker. Good luck in the afterlife. I hear the morning sun doesn't cast no shadow. You chose to drift away, but look at you now. C'était Noël Gallagher's High Flying Birds sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Entre tous les mésés, le taboulé, voilà un sujet d'agacement pour les Libanais. Rien à voir avec cette plâtrée de semoule étouffant quelques tomates et trois brins de menthe, non.
Le vrai taboulé, le taboulé des taboulés, c'est à base de persil, de menthe, de tomates, avec un tout petit peu de blé concassé et d'oignon.
Invité du temps d'un bivouac, Ryoko Sekiguchi, autrice de 961 heures à Beyrouth et les 321 plats qui les accompagnent aux éditions POL. Voilà un plat incontournable de Beyrouth, le taboulé. L'un des habitants de la ville vous fait d'ailleurs remarquer, Ryoko Sekiguchi, que les couleurs du drapeau libanais, vert, rouge et blanc, sont les couleurs du taboulé.
Je pense que c'est un plat, enfin un des plats nationaux, je pense. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, comme en mousse, hein, chacun son tabulé. Et à chaque fois que quand on va dans un restaurant, bon, bien sûr, on commande, comme disait Kamal Mezaak, pour les mésés, un tabulé. Et puis ils disent, oh non, mais c'est pas mal, mais c'est pas aussi bon que le tabulé de chez moi.
En fait, c'est
un peu comme la pasta de la mamma. Ouais.
C'est ça. Vous dites, on en sert dans le restaurant. Les Beyrouthins prennent ce taboulé, mais à chaque fois pour pouvoir le critiquer et dire que c'est beaucoup moins bon que celui.
C'est pour vérifier que la tabulé de maman est meilleure. C'est ce qui est assez mignon, je trouve.
Oui, c'est assez mignon. Alors, ce qui est sûr aussi, c'est que le taboulé, ce qu'on appelle taboulé en France, n'a rien à voir avec le taboulé libanais.
Non, mais c'est que j'avais presque oublié le tabulé français, puisque ouais, c'est vrai que je me suis beaucoup familiarisée avec le tabulé libanais, qui est nettement plus savoureux et frais, et qu'il faut que ça soit fait à la minute, et que mais aussi, enfin, il y a des gens en fait qui disent que quand on est préparé un peu à l'avance et quand les herbes prennent un peu de citron et un peu adouci, ça c'est bon aussi. Ouais. Donc chacun son tabulé, justement.
Ouais, mais c'est surtout que au Liban, c'est du persil essentiellement, c'est avant tout une salade de persil, finalement, ce taboulé,
oui.
Alors que en France, quand on s'attend à avoir un taboulé, on s'attend à avoir de la semoule de blé majoritairement dans l'assiette, finalement.
Et je comprends en fait que qu'on prend le taboulé en fait lors de mésés, parce que ça nettoie, vous savez, le palais, et avec le citron, et ça rafraîchit le palais pour pouvoir reprendre d'autres plats, en fait.
Alors, il y a d'autres plats comme ça qui sont partout, dans toutes les maisons à Beyrouth, mais chacun le fait à sa façon. Il y a aussi, vous citez le kébé.
Ah, le kébé, oui, parce que le kébé, en fait, la définition de kébé, il n'y a pas plus difficile que la définition de kébé, parce que ça peut être la viande, ça peut être végétarien, ça peut être le poisson, ça peut être frit, cuit, ou bien cru, plat, en forme de boulette, mais tous les plats peuvent s'appeler le kébé.
Alors, vous nous avez proposé, vous nous avez gentiment offert une recette de kébé qu'on a mis sur la page du Temps d'un Bivouac et puis aussi sur la page de l'émission sur franceinter.fr. C'est celle d'un grand chef cuisinier, là encore, que vous nous avez transmise.
Oui, de Karim Haider, qui est, enfin, moi je l'appelle le roi de kébé.
Oui. Mais alors, comment on pourrait, quand même si finalement tout peut s'appeler kébé, comment on pourrait définir le kébé?
Alors, donc, celui qui est présenté dans la recette de Karim, et il est en forme de boulette, hein, comme une sorte de jarre en fait à l'époque antique, et que qu'on crée avec les doigts, comme quand on fait la poterie, merci, et on terre une sorte de creux. Et pour mettre la farce, donc qui peut être soit donc fait des oignons et des pignons, enfin ça peut être aussi d'autres ingrédients,
ouais.
Voilà.
Ça peut être tout. Et ce qui est intéressant, c'est que vous dites finalement chaque kébé raconte la famille qui le confectionne. En fait, chaque Beyrouthin, chaque Libanais se raconte un peu son histoire à travers le kébé qu'il fabrique.
Oui, et puis non seulement les Beyrouthins, mais aussi en fait c'est un plat que qu'on transporte aussi à l'ordre d'exil et de d'immigration, parce que c'est un pays qui compte beaucoup de populations immigrées, et donc il y a chaque fois que qu'on part s'installer dans un autre pays, on importe la recette de kébé, parce que on peut faire avec beaucoup d'ingrédients. C'est ça qui est une sorte de générosité de plat.
Ouais. Et effectivement, la diaspora libanaise est très importante. Hein. Mmh. Il y a presque plus de Libanais à l'extérieur du Liban que dans le Liban. Donc, ce rayonnement de la cuisine libanaise est aussi dû à ces exodes.
Et je pense que si la cuisine libanaise est aussi bonne et délicieuse, et je pense que c'est grâce de ces allers-retours, de ces oiseaux migrateurs qui sont les Libanais, des grands voyageurs qui sont les Libanais.
Ouais. Alors, au fur et à mesure que vous goûtez à cette cuisine libanaise chez les Beyrouthins, vous sentez, ce sont vos termes, hein, vous sentez que cette cuisine devient votre goût. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ah, vous savez, je pense que chacun a son grammaire au fur et à mesure. Et par exemple, si vous épousez, je ne sais pas, une Argentine, c'est la cuisine argentine qui devienne un peu votre, qui façonne votre corps. Et je pense qu'en fait, un couple commence à se ressembler parce que on partage toujours le même plat. Je pense qu'on continue à manger la cuisine libanaise tout le restant de ma vie tellement c'est bon. Et que ça, oui, ça.
C'est-à-dire qu'il y a eu un avant et un après pour vous, cette rencontre avec la cuisine libanaise.
Ah oui, et on sent que ça. Je sais pas de combien de jours, enfin, les cellules sont remplacées par une autre, et je sentais au fur et à mesure de mon séjour, mes cellules sont remplacées par les cellules qui sont créées. À part la cuisine libanaise.
Ouais. Vous rappelez d'ailleurs, ça me donne une image que vous donnez dans votre livre, quand on partage un repas avec quelqu'un, ensuite, nos cellules sont en partie constituées des mêmes ingrédients, des mêmes molécules. C'est intéressant cette idée que lorsque l'on partage un repas avec quelqu'un, on en ressort un peu semblable. On a des éléments de notre corps qui sont les mêmes.
Je pense, c'est un peu ma définition de famille, plus que le rien de parenté, la communauté de partage des plats.
Alors il y a un côté très personnel aussi dans votre façon de percevoir, comme tout le monde, la cuisine. Et vous dites, moi dans ce voyage, le goût qui me restera, celui du Liban, c'est un goût d'anis un peu. Pourquoi celui-ci ?
Ah oui, parce que c'était un goût que je connaissais un peu, mais que je me suis familiarisée. C'est un peu comme si, vous savez, une personne que vous connaissez, en fait, c'était une connaissance qui n'était pas un ami. Et puis un jour, donc vous partagez, en fait, vous dînez plusieurs fois avec cette personne, et je dis « Ah oui, je ne savais pas qu'il était comme ça ». Et il y a ce plaisir de découverte d'une personne de façon plus profonde.
Ah, ils vous ont fait aimer l'anis finalement, en tout cas redécouvrir cette saveur.
Ah oui, la complexité de saveur, elle n'est pas que douce, il y a une sorte de petite amertume qui reste à la fin.
Alors vous vouliez faire un portrait de Beyrouth à travers sa cuisine, quand vous découvrez cette ville en 2018, on l'a dit, la révolution de 2019 et puis l'explosion de 2020 n'ont pas encore eu lieu quand vous y séjournez. Mais les années de guerre n'ont pas été oubliées et parler cuisine fait parfois ressurgir des souvenirs de cette période. Pendant la guerre, la cuisine et la nourriture ont parfois constitué un refuge, comme l'expliquait le sociologue et politologue libanais Rudolf Elkaré en 1999.
On a même assisté à des situations totalement aberrantes, pardonnez-moi le bon, à un certain moment, la bouffe est devenue un phénomène de compensation. Ce qui veut dire d'ailleurs beaucoup de choses, parce que la guerre est un phénomène social total qui casse littéralement des équilibres, qui ne se reconstruisent plus ensuite de la même manière. Et très souvent, je l'ai constaté au point d'avoir parfois un tout petit peu la nausée, le refuge des gens, cette volonté de se retrouver ensemble, presque jusqu'à la nausée, s'affirmer à travers des repas pentagruéliques.
Le sociologue et politologue libanais Rudolf Elkaré en 1999, Ryoko Sekiguchi, vous avez recueilli des témoignages qui allaient dans ce sens.
Oui, je pense. Et oui, parce que vous savez, d'une manière un peu différente, mais que nous avons connu ça en fait pendant les confinements, en fait, lorsque le monde extérieur nous est interdit. Finalement, qu'est-ce qui reste? C'est la cuisine. Et aussi, je pense que en mangeant, on constate qu'on est vivant.
Si bien que certains habitants vous disent, mais pendant la guerre, on a grossi. Pendant la guerre, on mangeait plus que maintenant. Tous ne sont pas d'accord. D'ailleurs, les souvenirs divergent, comme souvent dans ces cas-là.
Et d'ailleurs, en fait, c'est un tout à fait autre exemple, mais souvent, par exemple, quand on est dans une prison, tout ce qui préoccupe, c'est aussi la nourriture.
Et il y a d'ailleurs alors ça c'est pendant la guerre, en 2006, pendant la guerre des 33 jours, il y a un petit restaurant devenu mythique à Beyrouth, qui est un des seuls à rester ouvert. Il était tout petit, il était plein à craquer.
C'est un bar.
Et c'était c'était un bar.
Ouais.
Et c'est devenu la fierté des Beyrouthins, ce bar qui a tenu bon pendant la guerre des 33 jours.
Oui, et d'ailleurs, en fait, il y a beaucoup de d'amis qui m'ont dit « Alors, est-ce que tu vas écrire sur le Torino dans ton livre ?»
Torino, c'est le nom de ce bar, Torino. Ouais.
Et il y a des gens qui ont dit « Ah, je suis tellement content que tu aies écrit sur le Torino. » C'est vraiment drôle, mais ça prouve combien ce lieu était important symboliquement. Même ceux qui sont à Paris, les gens qui m'ont demandé, en fait, c'était des diasporas. Donc, ils n'ont pas été à Beyrouth au moment même.
Vous avez senti cette urgence. Par exemple, il y a une question que vous aviez l'habitude de poser aux gens de façon générale, pas spécialement à Beyrouth, de façon générale. Vous demandiez aux gens si ça devait être ton dernier repas, qu'est-ce que tu mangerais, qu'est-ce que tu aimerais manger. Et vous vous êtes rendu compte que cette question, elle ne fonctionnait pas et elle devenait douloureuse à Beyrouth, parce qu'à Beyrouth, les gens se l'étaient déjà réellement posé cette question. Et finalement, l'urgence de vivre peut-être le dernier moment, vous l'avez ressenti très présente chez les gens que vous avez rencontrés.
Ah oui, je pense qu'il y a dans le monde deux camps, c'est-à-dire que ceux qui ont connu la guerre et ceux qui n'ont pas connu la guerre. Et c'est vrai que le Liban est constitué des gens qui ont connu la guerre. Et donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'on ne sait pas ce que demain nous réserve. On sait qu'on peut mourir demain. Bien sûr, c'est le lot de tous les, de nos communs, mais on oublie. Ouais. On oublie en France, mais qu'il y a des gens qui n'oublient pas.
Ouais. Eux n'oublient pas, et ils ont été rattrapés aussi par les drames par la suite. Dans la suite de ce temps d'un bivouac, vous allez nous raconter quelques autres découvertes culinaires que vous avez faites à Beyrouth, Ryoko Sekiguchi, et nous évoquerons l'avenir de cette ville qui, depuis votre visite, a été dévastée par la double explosion d'août 2020.
شرب العرا لعب الورا خيل السبا سيد الحمام شرب العرا لعب الورا خيل السبا سيد الحمام رسم البرود لبس
chanté par Yasmine Hamdan sur France Inter, le temps d'un bivouac.
On va traverser. On va essayer d'éviter les taxis qui s'arrêtent pour nous prendre.
Ils ont une spécialité, les taxis services ici, c'est que ils hèlent littéralement le client. Alors on va passer par là.
D'accord.
À tout attention.
Là aussi, il y a pas mal d'arbres, etc. C'est plutôt agréable. Oui, mais qu'est-ce qui vous inspire le plus à Beyrouth?
C'est ce ménumélo. C'est autant ce petit silence très étrange. Et quand on va aller un peu plus loin, ça va être le bordel. Ce bâtiment horrible. Et à côté de lui, les vieilles bâtisses. C'est ce mélange, quoi.
Le cinéaste libanais Ghassam Salad dans les rues de Beyrouth au micro de Sophie Vergne en 2005. C'est important de donner la date quand on est à Beyrouth parce que cette ville a subi tellement de choses au cours de ces deux dernières décennies et même plus avant. C'était donc un extrait de Surpris par la nuit sur France Culture. La circulation est très dense, hein, on l'entend à Beyrouth. C'était aussi vrai lorsque vous y étiez en 2018, Ryoko Sakiguchi.
Ah oui, mais ce côté chaotique, ça change pas. Et puis quand on traverse, il faut d'abord mater tous les conducteurs pour dire « je traverse » justement.
Il faut faire attention. Alors, il évoquait aussi, Ghassan Salab, la ville Méli-Mélo en 2005. Ce terme s'applique-t-il toujours aujourd'hui, selon vous, Ryoko Sekiguchi?
Je pense, et de plus en plus de façon, je pense, déséquilibrée. Parce que je pense que 2006, il y avait encore beaucoup de quartiers en fait, qui gardaient l'ambiance d'autrefois, mais que maintenant, en fait, tous les jours, il y a une destruction, il y a des constructions de nouveaux immeubles. Mmh. Et là, on perd un peu le passé et l'histoire de cette ville.
Ouais. Ajoutez à cela la récente explosion qui a aussi un peu défiguré une bonne partie de la ville. Est-ce que la cuisine, puisque vous, votre parti pris, hein, Ryoko Sekiguchi, c'est de nous parler de cette ville à travers sa cuisine. Est-ce que la cuisine aussi évolue, se transforme, subit des influences extérieures?
Je pense à la fois oui oui.
C'est difficile. Je sens votre hésitation. Oui. En fait, dans votre ouvrage, vous êtes agacé par ceux qui considèrent que la cuisine des villes non européennes, comme Beyrouth par exemple, ne sont autorisées qu'à être authentiques et à ne pas évoluer.
Oui, parce que les gens, par exemple, pensent, comme au Japon, que à Tokyo, il y a d'autres choses que la cuisine japonaise. Mais vous savez, il y a beaucoup de choses que les gens des pays non européens partagent. C'est ce genre d'agacement. Les Européens, quand ils vont dans un pays non européen, ils veulent garder, ils veulent retrouver une ville authentique, traditionnelle, comme d'autres fois. Mais c'est pas possible, justement. C'est ce méli-mélo aussi qui est la preuve de l'histoire que cette ville a vécue.
Oui. Ce qui est très intéressant dans votre livre, justement, c'est ce regard un peu décentré, c'est-à-dire que vous nous faites découvrir la cuisine libanaise, mais en vous référant régulièrement à d'autres cuisines, dont la cuisine japonaise que vous connaissez très bien. Et ça donne effectivement une ouverture d'esprit très intéressante. Vous citez d'ailleurs, alors vous dites que c'est un plat que vous avez trouvé qui valait le détour, des tempura. Donc les tempura, c'est un plat japonais, mais les tempura faits avec des feuilles de vigne qui sont un des ingrédients de la cuisine libanaise. Et cette espèce de mélange de cuisine fusion japonaise-libanaise, vous avez trouvé ça délicieux?
Oui, parce que je pense que, et d'ailleurs, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc c'est ces allers-retours des Libanais qui créent la richesse de cette cuisine et aussi en fait qui contribuent finalement à la survie d'une culture culinaire. C'est parce que chaque personne apporte avec vous, elle, et en fait, cette cuisine. Donc, bien sûr, à la fois, ça évolue, à la fois, peut-être non, à la fois, peut-être dans une communauté d'un pays, donc les exilés gardent peut-être plus de façon authentique la cuisine libanaise. C'est aussi possible, comme les gens qui gardent l'accent d'une langue du 19e siècle.
Ouais, c'est intéressant. Alors, je rappelle que vous êtes écrivaine, mais aussi traductrice. Et ce lien que vous faites, ces passerelles entre l'écriture, la grammaire et la cuisine. Comprendre une culture culinaire, c'est comprendre la grammaire. Pour vous, c'est vraiment ça, un plat, vous...
C'est une langue, c'est une culture culinaire, c'est une langue, et à arriver dans un pays avec cette culture, avec connaissance, c'est comme si vous parliez une autre langue de plus, et donc ce qui facilite la compréhension de la ville.
Et les plats métissés, et bien du coup, ce sont, vous voyez ça comme quelqu'un qui maîtriserait plusieurs langues et s'amuserait à faire des jeux de mots multilingues.
Ou bien peut-être un couple justement le mixte et qui mélange un peu les, il y a ça crée c'est la langue qui est seulement pour eux, mais qui est délicieux aussi.
Alors, vous avez vu comme ça des passerelles entre les cuisines, vous avez vu aussi, et de façon assez inattendue, des ressemblances entre Beyrouth et certaines villes japonaises.
Oui.
Il y a plus de points communs que ce que vous pensiez.
Oui, parce que en fait, finalement, on partage encore une fois entre les pays non européens, par exemple, l'infrastructure qui sont très très identiques, enfin, jusqu'aux années, par exemple, 70, Téhéran, Beyrouth, Tokyo. Je pense que qu'on peut comparer ça comme ça. Et donc, il y a aussi, bon, politiquement parlant, l'État recule, l'État fait de moins en moins des choses, donc et au Japon et au Liban, et finalement, c'est le peuple qui se débrouille.
Et qui se débrouille, et puis aussi, vous avez trouvé une ressemblance dans cette façon. On ne cesse de s'offrir des choses à Beyrouth comme au Japon. Ce sont des échanges permanents, concrets et abstraits, qui créent comme un courant d'air dans la ville, écrivez-vous.
Ah oui, c'est un échange, c'est des échanges, c'est la commerce dans le bon sens de terme, c'est-à-dire qu'on ne reste pas dans un seul lieu, et on donne toujours une partie de soi-même.
Alors, depuis votre séjour à Beyrouth, il y a eu les explosions sur le port qui ont ravagé une partie de la ville le 4 août 2020. Je vous propose d'écouter quelqu'un que vous connaissez, Ryoko Sekiguchi, Lamia Ziad, une illustratrice franco-libanaise. Vous l'avez rencontrée. On lui demandait sur France Culture, quelques semaines après la catastrophe, l'image qu'elle garderait et qui resterait, selon elle, de Beyrouth. Voici sa réponse.
Avant, c'était les silos qui sont surtout des vues de Beyrouth, et deuxièmement les montagnes qui entourent Beyrouth, qui font que c'est Beyrouth et nulle part ailleurs, et la corniche que j'adore. Me balader sur la corniche, ça tient toujours. Bon, il y a plein d'immeubles pas très beaux, mais c'est vraiment visuel, c'est des petites ruelles, des petits quartiers paumés que personne ne connaît. Enfin, c'est bon. Maintenant, je crois que ça, sans parler de l'explosion, mais avec la crise économique, ça a changé. Mais ça, ce Beyrouth-là, j'ai la foi que rien ne détruira ce Beyrouth. D'ailleurs, 15 ans de guerre, et les promoteurs immobiliers après n'ont pas réussi à détruire l'âme de Beyrouth qui est dans chaque ruelle, etc. Donc ça, j'y crois, ça sera jamais détruit. Mais c'est dur là d'imaginer quand même la suite.
Difficile d'imaginer la suite. Il y en aura une pour cette ville, mais c'est difficile aujourd'hui de l'imaginer. Ryoko Sekiguchi, vous qui avez écrit sur l'après-catastrophe, après le séisme, le tsunami et l'accident nucléaire survenu à Fukushima et qui ont frappé le Japon en 2011, comment une ville et ses habitants peuvent-ils revivre après de tels drames ?
C'est difficile, mais je pense qu'en fait, au moins, donc ce que j'ai pu faire, donc après cette catastrophe, cette triple catastrophe, c'était justement, c'est à partir de ce moment-là que, en fait, finalement, j'ai commencé à écrire sur les goûts. Parce que ce sont des choses qui sont tellement éphémères, mais et qui disparaissent tellement facilement, mais finalement qui constituent l'essentiel de la vie de chacun. Et je considère ce livre comme un livre, disons entre guillemets, politique, dans le sens où les bâtiments sont détruits, mais la culture culinaire, par exemple, ça. Quand on écrit, il y a quelque chose qui se conserve, comme les pots de conserve, et que qu'on peut ouvrir, qu'on peut refaire. Ce sont des recettes. C'est pour ça que c'est le livre de cuisine qu'on peut refaire et qu'on peut les plats vont apparaître comme l'image d'une ville et qu'on peut déguster.
Les goûts, les plats, les recettes, tout ça, c'est pas perdu. Ça reste. Ouais. Merci Ryoko Sekiguchi. Votre livre s'intitule 961 heures à Beyrouth et 321 plats qui les accompagnent. Il est paru aux éditions POL. Et puis, on a mis aussi, je le rappelle, sur la page Facebook du Temps d'un Bivouac, la recette du Québec que vous nous avez offerte. Vous restez avec nous, Ryoko Sekiguchi, dans un instant. Des gorges du Sian à la dune du Pila, le passionné de géologie Georges Fetterman va nous emmener à la découverte de quelques paysages grandioses de nos régions.
D'amour sans amour, de pas beaucoup d'eau fraîche, le cœur toujours percé par ta flèche. Mes larmes un peu sèches. garder la pêche. Souviens-toi l'été dernier, tu as disparu. Ce n'était qu'un CDD, je n'avais pas bien vu.
Et c'était Benjamin Biolay, Souviens-toi l'été dernier. La programmation musicale de cette émission est signée Muriel Pérez.
Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé. Sur France Inter.
Toutes les gorges de cette région des Alpes sont relativement récentes. Elles ont quelques millions d'années. La roche comme ça, pourquoi elle est rouge? C'est parce qu'en fait, c'est l'oxyde de fer qui colore la roche. Tout le fer qui était contenu dans les argiles, dans les sédiments, ben, il s'est oxydé, il a rouillé en fait. Et ça, c'est très rare d'avoir des épaisseurs de roche rouge aussi grandes comme ça. C'est pour ça, le surnom de la région, c'est le petit Colorado niçois.
Un des nombreux paysages sublimes de France, les Gorges du Sian, décrit par le géologue Patrick Torgemann, spécialiste de ce massif dans les Alpes-Maritimes. Bonjour Georges Fetterman.
Bonjour.
Passionné de géologie et de nature, vous êtes l'auteur avec Marc Giraud d'un livre intitulé « Paysages de France en bord de chemin » aux éditions Delachaux et Niesley. Un livre dans lequel vous nous invitez à lire les paysages de nos régions avec l'œil du géologue. La France est un pays d'une très grande diversité géologique, ce qui explique la diversité de nos paysages. Et certains de ces paysages rappellent ceux de contrées très lointaines. Nous en avions un exemple à l'instant avec ce petit Colorado niçois. Georges Fetterman.
Oui, bah c'est un endroit qui n'est pas très connu, hormis des habitants des Alpes-Maritimes. Tout le monde se précipite vers les plages et oublie, par exemple, ces gorges du Sian et de Daluis, qui sont d'une rougeur splendide et dont j'ai retrouvé l'équivalent, effectivement, aux États-Unis. La même émotion quand on les découvre, et effectivement, l'explication avec l'oxyde de fer et des argiles accumulées comme décomposition d'une chaîne de montagnes. En gros, ce qu'on invite à faire, c'est à admirer ces paysages merveilleux et, si possible, à les comprendre un petit peu. Et c'est un plaisir supplémentaire qui fait de mal à personne.
Ouais.
Mais qu'est-ce qu'on est content quand on a compris un petit peu quelque chose, ouais, un paysage.
Oui, parce que ces paysages, quand on les comprend, quand on les décrypte, ça raconte toute une histoire. On comprend ce qui semble figé et immuable. On comprend que ça s'inscrit dans tout un mouvement. Et par exemple, quand on traverse Lyon, on se trouve à l'emplacement d'une très ancienne barrière de corail. Encore faut-il savoir le voir.
Oui, on peut passer avec la route, c'est la Nationale 6, si je me trompe pas, qui longe, les gens y voient des rochers un peu en hauteur, assez spectaculaires, et puis quand on écoute un peu les géologues, on se découvre qu'il s'agit qu'à 150 millions d'années près, on était au fond de la mer, d'une mer peu profonde, avec un récif corallien. Il y avait une île pas très loin, granitique, qui s'appelle le Morvan aujourd'hui, et autour de cette île, il y avait des récifs de coraux. Il y a la roche de Solutré aussi, qui est un ancien récif corallien. Bon, à manque de chance, à 150 millions d'années près, ouais, on voyait des poissons en se baladant dans l'Yonne. Oui, là, c'est fini. C'est le temps des dinosaures, 150 millions d'années.
Oui, on est à l'époque des dinosaures, où finalement l'Europe était une sorte d'archipel avec des mers peu profondes.
Oui, et puis il faut pas oublier que l'Amérique dont je parlais jusqu'à présent, on y allait à pied, c'était juste à côté. L'Atlantique n'était pas commencé à peine à s'ouvrir, donc la mer occupait l'essentiel de ce qui est la France, sauf les hauteurs, c'est-à-dire les anciens massifs granitiques qui eux étaient des îles, donc c'est pour ça qu'il y a pas de calcaire dessus. Mais partout ailleurs en France, on trouve ce fameux calcaire qui a été déposé au fond de la mer. On a du mal à l'imaginer, les épaisseurs des grandes falaises et tout ça, c'était au fond de la mer, tout ça. Alors, donc quand on va dans les gorges du Tarn ou du Verdon, c'était des roches qui étaient au fond de la mer.
Ouais. Alors continuons à nous promener dans ces paysages. La dune du Pila, plus grande dune d'Europe, d'où vient tout ce sable, Georges Vetterman?
Alors, dans les dernières années, dernières centaines d'années, c'est du sable qui se déplace. Tout le monde sait que cette dune, elle se déplace. Elle mange même la forêt à côté. Mais c'est plus amusant et passionnant de voir d'où vient le sable en question. Il faut remonter dans l'Atlantique, retrouver l'estuaire de la Gironde et repartir en arrière vers la Garonne ou vers la Dordogne pour aller jusqu'à ces vieux granites qui se sont décomposés et qui ont donné du sable. C'est-à-dire, c'est des granites de 300 millions d'années. On va le dire autrement, quand vous êtes sur une plage en Charente-Maritime ou dans les Landes, vous êtes sur des restes du granit de 300 millions d'années qui vient des Pyrénées ou du Massif Central.
C'est ça, on est sur de la montagne en poudre, comme vous l'expliquez.
En poudre, ouais,
alors, il y a une autre chose intéressante. Vous dites rien qu'en regardant les constructions, les maisons, le matériau dont elles sont construites, nous donne souvent des informations sur la nature du sol où on se trouve.
Ah oui, c'est ça, j'aime beaucoup montrer à tout le monde. Si vous voulez connaître la géologie d'un endroit, regardez les vieilles maisons. Regardez les pierres des églises, elles vous racontent la géologie. Là, j'étais il n'y a pas très longtemps dans le département de la Haute-Loire, qui est une merveille de ce point de vue-là, où les roches des églises ou des vieilles maisons, ou les toits même, vous savez, les fameux toits en lauze, vous racontent l'histoire soit volcanique, soit granitique de la région. Donc effectivement, les vieilles maisons racontent tout ça.
Et même météoritique, l'histoire météoritique de la région, si on se balade du côté du Limousin, dans la ville de Rochechouart, certains bâtiments sont construits avec une roche qui raconte un passé lointain apocalyptique, Georges Vetterman.
Ouais, c'est incroyable. Il a fallu beaucoup de temps, il n'y a pas si longtemps que ça, qu'un géologue a compris que les roches de l'église et du château de Rochechouart dans la Haute-Vienne, étaient constituées de ce qu'on appelle des brèches, qui sont des bouts de roches qui ont explosé au contact de la chute d'une météorite. Oh, ça fait presque 200 millions d'années qu'elle est tombée. Mais quand on voit les monuments, on trouve qu'elles sont bizarres, les pierres. Et c'est pas pour rien, c'est des morceaux, on appelle ça des brèches, des morceaux qui ont explosé lorsque la météorite de Rochechouart est tombée. Rochechouart n'existait pas.
Oui, évidemment, on est à 200 millions d'années en arrière, mais là encore,
et on voit même pas le cratère, il reste rien du cratère.
Alors nous avons la chance d'être dans ce pays géologiquement particulièrement riche, puisque nous parlions gastronomie dans la première partie de cette émission. En 30 secondes, Georges Vetterman, est-ce que la géologie influence notre gastronomie ?
Oui, à coup sûr, puisqu'elle va conditionner la géologie, l'âme des paysages, comme je dis dans le livre, va conditionner la nature du terroir, et sur ces terroirs, les hommes vont mettre des animaux, des vaches notamment, et les vaches, on l'explique largement dans le livre, sont spécialisés et sont des vaches de terroir, très souvent, les Aubrac, les Salers, les Abondances, qui vont donner tel ou tel fromage qu'on apprécie autant que la beauté des paysages. C'est impossible de dissocier la beauté d'un paysage de la beauté des fromages de France ou de l'art roman en France. Tout ça va ensemble, c'est ce qu'on essaye de montrer à travers ce livre.
Ryoko Sekiguchi, notre invité spécialiste de la gastronomie, acquiesce grandement.
Ah, c'est très émouvant. C'est vrai qu'on mange la terre, on majuscule en fait.
Ouais, c'est ça, on mange les paysages. Merci Georges Fetterman. Je rappelle le titre de ce livre que vous avez écrit avec le concours du naturaliste Marc Giraud, Paysages de France en bord de chemin, aux éditions Delachaux et Niesley. Un grand merci à vous Georges Fetterman.
Merci à vous.
Le temps d'un bivouac replie sa tente. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast. Vous êtes particulièrement nombreux à nous laisser des messages ces derniers jours sur la page Facebook du Temps d'un Bivouac et sur franceinter.fr. Nous vous lisons avec beaucoup de plaisir et d'intérêt, croyez-le. À samedi prochain pour de nouvelles aventures. Et dans un instant, on retrouve Jean-Claude Amezen sur les épaules de Darwin. Aujourd'hui, Jean-Claude s'intéresse à l'hérédité et à la possibilité de transmettre ou non les caractères acquis.